RCF.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi, vous nous rejoignez sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne, RCF Champagne-Ardenne en DAB+, c'est le magazine régional. On est ensemble jusqu'à 19h50 que l'on va passer en compagnie de Mélissa Tavares, notre stagiaire toujours fidèle au poste. Bonjour Mélissa.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF avec Jacques Cohen qui sera aussi en ligne par téléphone. Le conflit Arménie-Azerbaïdjan, l'Europe part en guerre, c'est l'épisode 3 de la série proposée par Jacques Cohen, d'un feuilleton qui est bien plus long que 3 épisodes. Dans quelques instants, nous partirons à la rencontre de Marcel Vergès, maire de Ventelet, dans la Marne. Aux alentours de 18h30, vous avez rendez-vous avec l'actualité et le journal régional. Après quoi, on parlera pas mal de Dronay, vous le savez, un église qui a été incendiée début juillet. Ça a perturbé un petit peu toute la ville du village. Ça sera l'occasion de rencontrer Emmanuel Leroy, le maire de la commune, mais aussi d'aller à la rencontre de l'association de sauvegarde de l'église de Dronay et de Anne-Marie Vermeulen qui nous expliquera qu'un concert de chant grégorien est organisé le 15 octobre prochain pour soutenir l'église du village. Et puis nous serons avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, dans la rubrique Parole d'évêque. Il s'entretiendra avec Jean-Pierre Benoît qui est aussi avec nous ce vendredi. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous, on commence comme promis, comme tous les vendredis, par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen en ligne avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Nouvel épisode dans le conflit Arménie-Azerbaïdjan. Si l'on fait une photographie de la situation dans le Haut-Karabakh, professeur Jacques Cohen, qu'est-ce que l'on voit à l'image ?
Déjà, ce qu'on voit, c'est que le Haut-Karabakh a été vidé de ses habitants quasiment intégralement. On voit aussi qu'ils sont partis, si j'ose dire, tout seuls, ou du moins sous devant les menaces réelles ou supposées. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'avait prévu Bakou, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan. Alors, l'Azerbaïdjan aurait pu jouer sur du velours, sur le thème « Nous garantirons la même autonomie que du temps de l'Union soviétique », mais ils n'ont pas pu s'empêcher d'enlever les panneaux sur les routes avec les inscriptions en arménien pour le nom de la ville, etc. Ceci pose aussi pour les Azerbaïdjanais un autre problème. Ils ont, assez astucieusement, fait uniquement rentrer en ville des forces de police, et surtout pas l'armée. Sauf qu'il n'y a personne. Et il va être très difficile pour eux de montrer une coexistence pacifique avec les Arméniens, puisqu'il n'y en a plus. Donc déjà, je vous ai dit, changer les panneaux des routes, ce n'était pas déjà une très bonne idée et le retour à de mauvaises habitudes. Mais comme en plus, ils ont arrêté certains dirigeants des indépendantistes arméniens, ça ne les met pas dans une situation totalement démonstrative de leur bonne volonté. Et finalement, il faut regarder un peu plus loin, effectivement. Pachinian avait à peu près bouclé un accord avec Bakou sous l'égide des Russes et des Turcs. Puis, il a été embêté, si on peut dire, par l'attitude des extrémistes de son camp au Karabakh, avec comme difficulté que ceux-ci imaginaient le parapluie russe comme indestructible et indéfini. Et donc, ils ont pu même s'abuser, si je puis dire, à faire un petit peu de guérilla, c'est-à-dire poser des mines sur le chantier de l'autoroute que les Bakou prévoyaient vers le Haut-Karabakh. Moyennant quoi, Poutine a laissé faire les Azerbaïdjanais de nettoyer vite fait bien fait la résistance des Arméniens et d'envahir l'intégralité. Problème supplémentaire, les Arméniens se sont tous barrés. Et donc la victoire des Azerbaïdjanais est un petit peu trop évidente. Alors, du côté parlement arménien, ils ont renforcé encore ce qu'on pourrait appeler une provocation anti-russe, c'est-à-dire que, non content d'avoir fait des mini-manœuvres militaires avec les Américains, ce qui, malheureusement pour eux, n'engage à rien, parce qu'ils auraient dû se rappeler ce qui est arrivé en Géorgie, du temps de Saakashvili, eh bien, non content donc, de cette provocation-là par rapport aux Russes, ils ont voté l'adhésion de l'Arménie à la Cour pénale internationale. Alors ça, pour les Russes, ils ont avalé de travers parce que cette Cour pénale internationale a inculpé Poutine il n'y a pas longtemps. Cette inculpation d'ailleurs est sur un motif un peu biscornu qui est de leur déporter des enfants en Fédération de Russie, ce à quoi les Russes répondent que c'est pour leur éviter de prendre des missiles sur la figure. Et il y avait pourtant bien d'autres choses à reprocher à Poutine, dont le fait d'avoir déjà déclenché la guerre, mais ce n'est pas le cas. Donc de toute façon, on est encore très loin de ce qui est un procès. Il faudrait que les Russes perdent la guerre pour cela. Mais le symbole est important. L'Arménie valide un organisme qui a mis Poutine en examen. Donc ça va conduire Poutine à continuer à laisser faire les gens de Bakou, histoire de montrer aux Arméniens que d'une part les promesses américaines n'engagent à rien, comme on l'a vu précédemment, mais que surtout maintenant, l'Union européenne s'est mise là aussi à crier très fort, mais à crier très fort comme tigre en papier, parce qu'elle n'a aucun moyen d'empêcher une action militaire des gens de Bakou. Alors Bakou n'envisage sûrement pas une action militaire d'envahissement total de l'Arménie. En revanche, Bakou avait déjà pris quelques gages sur la route entre Goris et le sud de l'Arménie, de façon à pouvoir obtenir le corridor sud entre le Nakhitchevan à l'ouest, qui est azerbaïdjanais, et la République d'Azerbaïdjan. Le blocus initial du corridor de la Chine entre Arménie et Karabakh était en fait destiné à ce marchandage, renforcé d'une pression militaire sur le fait que les Arméniens, par la prise de contrôle de cette route, il leur devenait très difficile d'amener quoi que ce soit comme renfort et de défendre le corridor sud.
Et ça s'annonce donc plus compliqué que prévu pour les Azerbaïdjanais sur ce corridor sud, Jacques Cohen.
Politiquement, militairement, ça pose aucun problème. Ils peuvent prendre le contrôle à 48 heures. Mais politiquement, c'est plus gênant parce que à partir du moment où ils ont récupéré l'intégralité du Karabakh, ça fait quand même assez expansionniste d'envahir encore un bout d'Arménie pour aller garantir le passage du corridor sud. Et là, les Européens ont crié très fort, mais Poutine a besoin de montrer que les Européens sont des tigres en papier qui crient très fort, mais qui sont incapables d'aider. Et donc, il peut laisser faire Bakou, au moins sur le fait de prendre le contrôle du corridor sud. Alors, ce qui complique aussi les choses, comme vous avez vu, c'est un coin compliqué, c'est que les Iraniens ne sont pas du tout d'accord. Pour les Iraniens, un corridor Turquie-Azerbaïdjan, où ils n'ont pas leur mot à dire, c'est très ennuyeux. Parce que, vous vous rappelez que probablement, que le petit père des peuples, le commissaire aux nationalités en Union soviétique, avait fait des dessins de frontières infernaux qui rendaient aucun des pays capable d'être réellement autonome. Et en particulier, il manque à l'ouest du Nakhitchevan 2 km aux Iraniens pour avoir un contact direct avec l'Arménie. Ce contact direct, ils l'ont tant que l'Arménie va jusqu'à la frontière iranienne, mais si un corridor passe sous contrôle azerbaïdjanais, ça ne va pas du tout pour eux. Et les Iraniens proposent sans rire que l'autoroute en question ne soit pas sur la rive nord du fleuve, et donc en territoire arménien et azerbaïdjanais, mais pas chez eux, entre donc une autoroute de Turquie à Bakou, qui rentrerait par le fameux point de jonction des frontières, qui permettrait donc à l'Arménie d'y avoir accès, qui descendrait et ensuite passerait rive sud de la rivière en territoire iranien. Alors les Turcs ne sont pas tellement enthousiastes, les gens de Bakou non plus, mais il faut rappeler que les Iraniens ont un pouvoir de nuisance considérable. Ils ont déjà fait une énorme bêtise pendant l'offensive de Bakou à succès, qui a permis la reconquête non seulement de le Karabakh, mais de toutes les autres provinces que les Arméniens avaient piquées dans leur victoire militaire précédente il y a 30 ans. Et ils ont fait une énorme bêtise, c'est que la route indispensable, il n'y a pas beaucoup de routes dans le coin, la route indispensable de cette invasion par le sud, que n'attendaient pas les Arméniens, passe le long de la frontière. Elle passe sur la rive gauche de ce fleuve frontière à 500 mètres de la frontière. Il y avait déjà eu des incidents militaires quelques années auparavant, qui fait que les Iraniens avaient, pendant les 15 jours où il était totalement critique de voir l'intégralité de la logistique de l'Azerbaïdjan passer par là, ils avaient tout le loisir de couper cette route, ce qui aurait sérieusement changé le cours de la guerre. Ils ne l'ont pas fait, probablement parce qu'il y avait déjà en filigrane des accords pour le bon taux pétrolier et gazier, c'est-à-dire que, en dehors de l'Arménie, qui n'y a pas de pétrole, la position de plaque tournante de l'Azerbaïdjan était qu'ils peuvent exporter leur gaz, le gaz russe ou le gaz iranien, par les mêmes tuyaux dits connus, et que pour la sortie, il serait souhaitable qu'il y ait un ou deux pipes de plus, de façon à sortir le gaz par la mer Noire, à travers la Géorgie, par la Turquie, par l'Iran également, et c'est ça important, par l'Iran également vers le Moyen-Orient. Et donc les Iraniens ont, semble-t-il, de façon inattendue pour eux, soutenu Bakou plus loin qu'il ne le pensait, en les laissant faire, parce que ça les déséquilibre maintenant. Les puissances régionales, si l'Arménie est durablement affaiblie. Alors pour revenir aux Européens, on a même annoncé qu'on allait envoyer des armes, ce qui est bien gentil, mais à partir du moment où les Américains ne veulent pas envoyer des troupes de pied en cap à travers la Géorgie, où la route est d'ailleurs assez limitée pour passer, et les Russes et Bakou pourraient très bien décider que l'aide américaine ne rentre pas, on n'est pas dans la situation de l'Ukraine, où il y a des différents canaux que les Russes sont incapables de fermer, là, il n'est pas très difficile d'empêcher de passer de la Géorgie à l'Arménie. Donc, les Européens crient très fort, mais sont incapables d'agir. Et donc, il est à craindre que cela ne contribue pas à crédibiliser l'Union européenne comme puissance régionale ayant des vues sur le Caucase.
Merci Jacques Cohen, rendez-vous sur votre blog jhmcohen.com pour plus d'informations. À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Aux alentours de 18h20, le maire qui nous parle ce vendredi est Marcel Vergès de Ventelet dans la Marne. C'est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Marcel Vergès, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, on a envie de connaître votre action, vos missions en tant que maire, mais aussi que vous présentiez un peu votre commune Ventelet. Pouvez-vous nous dire où se trouve Ventelet, le nombre d'habitants ?
Tout à fait. Bien, je vais vous expliquer tout ça. Donc, nous avons une population de 260 habitants. Ça progresse un petit peu au prochain recensement. Je pense que ça sera mieux puisqu'il y a des nouvelles familles qui se sont installées sur Ventelet. Le gentilé, c'est ventilésien, ventilésienne. Nous avons choisi ce nom-là il y a quelques années parce qu'il n'y en avait pas avant. Nous sommes une très très grande commune puisque nous avons près de 1500 hectares de superficie et notre conseil municipal bien sûr est composé de 11 membres et nous avons une secrétaire de mairie et un employé communal 2 jours par semaine.
Marcel Vergès, je vous interromps un peu, mais vous êtes maire depuis combien de temps ? Ça fait quelques années ?
Oui, alors ça fait quelques années, ça va faire bientôt 20 ans, j'allais dire, puisque je suis maire depuis 2004. Alors c'était au milieu d'un mandat, puisque le maire précédent n'avait plus l'accord du conseil municipal et donc a démissionné. Et on est venu me chercher. Comme je suis un homme qui m'investit complètement, j'ai été élu conseiller municipal et aussitôt après maire.
Alors c'est vrai que quand on parle à des responsables publics, ils disent tous, quelle que soit la taille de la commune, le plus beau mandat, c'est celui de maire. C'était un peu dans votre ADN d'être maire, vous aimiez prendre des responsabilités, peut-être déjà dans le monde associatif ?
Mais tout à fait, puisque j'ai fait une carrière militaire, mais une carrière militaire dans le sport et dans beaucoup d'autres choses, et j'étais éducateur sportif aussi, dans les clubs d'athlétisme, mais notamment à Reims, quand j'étais à Reims. Et puis j'ai terminé ma carrière en tant qu'officier des sports au Sud-Liban, en tant que casque bleu. Et là, ça m'a permis de finaliser un petit peu le tiers de ma vie, on va dire. Et j'ai décidé de changer et de travailler dans le commerce, et ensuite de revenir à la retraite dans le village où mon épouse avait des attaches.
Alors, votre commune, comment peut-on la caractériser, Marcel Vergès ? Les habitants, des retraités, quelques jeunes qui arrivent, quels sont-ils ces habitants de Ventelet ?
Alors, c'est la caractéristique principale de la commune, c'est une commune agricole, essentiellement agricole, avec quelques artisans, mais aussi de nombreux habitants qui, généralement, travaillent sur Reims. Et c'est une commune qui a un passé très 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 important, puisque notre église date du XIIe siècle. Bien sûr, il y a eu plusieurs rénovations sur ce bâtiment. L'étymologie du nom de Ventelet vient du latin ventilatum, signifiant bourgade exposée au vent. Et c'est vrai que de temps en temps, il fait un petit peu de vent à Ventelet, mais nous avons rarement des dégâts.
Ah ben ça veut dire que c'est une commune où on respire, bon, s'il y a du
vent.
C'est ça. Alors il faut dire, monsieur le maire, qu'un maire, souvent, il est sollicité, il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes ou de moins jeunes qui aujourd'hui renaclent un peu parce que c'est quand même des responsabilités, et c'est du temps aussi à prendre sur sa vie personnelle.
Tout à fait, mais bon, j'allais dire, quand on s'engage, que ce soit pour un mandat ou pour autre chose, ben, il faut le faire à fond. Et j'ai toujours eu l'habitude, c'est peut-être mon passé militaire, de faire tout ça à fond. Et j'ai une devise très proche, j'allais dire, des choses qui font du bien aux gens. Rendre service, ça ne pose pas de problème. Et ma devise, c'est toujours vouloir entreprendre et réussir. Quand on peut.
Ça, c'est bien. Vouloir entreprendre, réussir. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, ils sont en train de noter parce que ça, c'est vrai pour, dans la vie de chacun. Alors, est-ce qu'on est encore le patron quand on est maire chez soi? On se tourne vers vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le Grand Reims, il y a des communautés de communes.
Oui.
Mais le maire, il existe toujours. C'est celui à qui on va s'adresser, d'ailleurs.
Mais oui, bien sûr que le maire existe toujours. Et je pense qu'il ne faudra pas changer ça tant qu'il y aura au moins des gens qui veuillent bien remplir ce mandat-là. Depuis le début, j'ai toujours été un fervent partisan de la communauté urbaine du Grand Reims, pour tout vous dire. La ville et le rural sont complémentaires et notre charte est un atout qui n'est pas fait pour avoir des désaccords, mais plutôt pour avoir un accord entre la grande ville de Reims et les petites villes autour et la campagne. Même si ce transfert, on a perdu quelques compétences, ou on a transféré plutôt. Ce n'est pas un handicap pour les petites communes. Je suis avec mon conseil municipal et les acteurs du développement de notre village, avec l'aide de la communauté urbaine du Grand Reims.
Absolument. Beaucoup d'ailleurs de maires pensent comme vous. Alors, quel type de demande? Parce que le temps passe très vite dans cette émission, on aura l'occasion de nous retrouver. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos habitants, vous rencontrez tous les jours sur le terrain? Parfois, c'est des questions un peu personnelles, parce qu'il y a ci ou ça qui va pas. Bon, on demande, on est à portée, comme on disait un peu familièrement, Gérard Larcher, le président du Sénat, à portée d'engueulade, mais aussi à des gens qui vous encouragent quand même.
Eh bien oui,
Il y a tout.
Bon, les demandes sont très variées et avec l'aide de notre secrétaire de mairie, on essaye de répondre au mieux aux attentes de nos administrés sur les problèmes de voisinage, l'urbanisme, la réglementation, un problème récurrent d'ailleurs. Dans la plupart des communes, ce sont les vitesses excessives en traverse d'agglomération. Nous avons fait des investissements importants pour essayer de régler et d'atténuer ce problème. Mais on n'a pas trouvé la solution miracle. Donc si jamais il y a un maire qui a une solution miracle, je suis prêt à la prendre.
Eh ben, qu'ils appuient ces automobilistes un peu moins sur le champignon, monsieur le maire.
Le champignon,
mais ça,
ouais,
vous ne pouvez pas agir. Il faudrait faire de la prévention routière. Est-ce que vous avez des projets en cours, à court terme, à moyen terme, à long terme, pour Ventelet?
Oui, j'ai toujours eu des projets pour Ventelet, puisque on me dit que le village a bien changé. Puisque dernièrement, on vient de nous attribuer une deuxième fleur dans notre village. Je vais quand même vous lire la décision du jury. Alors, ils ont décidé de nous accorder une fleur supplémentaire, c'est-à-dire une deuxième fleur. Et en conclusion générale, ils ont mis petite commune composée d'une équipe municipale et de bénévoles très motivés. Commune qui a beaucoup progressé dans l'amélioration de son cadre de vie. Donc, passage à la deuxième fleur, amplement mérité. Donc, vous voyez que...
Ah ben ça, on a envie de vous applaudir et de dire bravo. Bravo, monsieur Vergès.
Donc, les habitants en sont conscients, ils participent aussi, dans leurs possibilités, bien sûr. Mais bien sûr aussi, le maire a des fois quelques petits problèmes avec les habitants.
Oh, mais c'est inévitable.
Mais c'est inévitable et peut-être que ça enrichit un petit peu aussi les décisions des fois.
Je vous propose, Marcel Vergès, de refaire une autre émission avec vous parce que on arrive pratiquement au bout des 9 minutes. Vous savez, ça va très très vite. Oui. On n'a pas pu évoquer la vie professionnelle, la vie familiale. J'imagine que vous savez conjuguer. Mais est-ce que vous êtes un maire heureux pour terminer?
Oui, tout à fait. J'aime le dire. Maintenant, je suis maire 24 heures sur 24. Depuis une dizaine d'années que je suis en retraite, mais cela n'est possible que quand votre épouse est un soutien indéfectible. Voilà.
Et vous êtes entouré et votre épouse vous aide dans vos fonctions de maire. Merci en tout cas, Marcel Vergès, maire de Ventelet, d'avoir été avec nous. On est très content de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission Votre maire nous parle. Et puis je suis sûr qu'avec vous, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, on fera aussi d'autres émissions. Merci d'avoir été avec nous, Marcel Vergès, et à bientôt sur RCF.
Merci Marcel Vergès, merci à vous aussi Jean-Pierre, vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure et on va faire du Jean-Pierre Benoît dans le texte puisque quand la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure de l'information régionale sur RCF. Les titres de ce vendredi 6 octobre 2023, basée à Troyes dans l'Aube, l'entreprise Les Courriers de l'Aube Transdev Grand Est reçoit le trophée ambassadeur de l'emploi du transport et de la logistique. Dimanche sera donné le coup d'envoi d'une mission itinérante d'une semaine dans l'espace missionnaire Ardennes Sud, articulée à Rethel et Solé-Rethel, Présentation avec le père Arnaud Toury.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Lancé en 2018 par l'AFT, un organisme qui assure la promotion et le développement de la formation dans les métiers du transport et de la logistique partout en France, le label Ambassadeur pour l'emploi continue de faire son chemin. Sur tout le territoire, plus de 200 entreprises sont entrées dans la démarche. Les Courriers de l'Aube Transdev Grand Est, basé à Troyes dans l'Aube, a reçu le label le 25 septembre dernier, un acteur incontournable du transport de voyageurs en Champagne-Ardenne, comme nous le présente sa directrice Claire Lourdelet-Balthazar.
C'est 170 collaborateurs, plus d'une centaine de véhicules, avec un marché pour la région Grand Est au niveau du scolaire sur le territoire de l'Aube, de la sous-traitance aussi en urbain pour le réseau de Reims-Citura, et du transport scolaire aussi sur la Haute-Marne pour le compte du réseau urbain Transdev Saint-Dizier TICA.
Une récompense qui permet à l'entreprise de renforcer la marque employeur et d'agir localement et durablement sur l'emploi. Karine Lourdelet-Balthazar.
Ce label représente un travail collaboratif de l'ensemble de l'équipe administrative de l'entreprise et une vraie récompense sur la fidélisation et la valorisation de l'ensemble de nos collaborateurs au sein des Courriers de l'Aube. Dans le cadre du recrutement de personnel de conduite, notamment, nous créons une nouvelle formation, plus poussée qu'un titre professionnel, avec une batterie de formations très spécifiques, SST, qualité de vie au travail, chronotachygraphe, santé, sécurité, en complément du permis de conduire, titre permis D et de la FIMO, avec une intégration tout au long de cette formation au sein de notre société.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Pour postuler, vous pouvez déposer votre candidature sur le site internet de l'entreprise transdev-grandest.fr. C'est ce soir que sera dévoilé le visage de Miss Champagne-Ardenne 2023, la Miss qui représentera notre territoire à l'occasion de l'élection Miss France dans les prochaines semaines. 13 candidates sont en lice pour succéder à Solène Scholler. L'élection est organisée à partir de 20h30 au cabaret Le Cas de Tinqueux. 46 villes classées, Reims, 12e agglomération de France en termes de population, n'arrive que 24e des meilleures villes étudiantes selon le classement annuel de la revue L'Étudiant. Parmi les critères pris en compte, l'offre de formation, la vie quotidienne, les sorties, l'offre de logement, le taux de chômage ou encore le prix d'une bière ou d'un café. Et ça tombe bien, à nos côtés, il y a Mélissa Tavares. Mélissa, vous êtes, vous, encore lycéenne, en terminale, mais malgré tout, vous participez à la vie étudiante. Qu'est-ce que vous en pensez de Reims, Mélissa ?
Bah, je trouve que c'est quand même une bonne ville pour s'y diversifier par rapport aux études, au lycée et tout. Mais je pense qu'il y a encore des choses à modifier quand même.
Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Où Reims pourrait progresser?
Je pense beaucoup plus vraiment à l'écoute des élèves.
À l'écoute des élèves pour faire plus de choses
peut-être? Ouais, plus de sorties et tout, parce qu'on n'a pas beaucoup de lieux à visiter, plus scolairement.
D'accord, alors plus de visites à faire, plus de lieux culturels, pourquoi Exactement. Pas dans la ville de Reims, plus d'initiatives de regroupement des jeunes étudiants. Mélissa, le message est passé. On continue le journal régional avec la toiture de l'église Saint-Nicolas de Chigny-les-Roses qui fait peau neuve avec des travaux entamés depuis plus d'un an qui devraient s'achever courant novembre pour financer une partie de ce nouvel aménagement. En lien avec la Fondation du patrimoine, la commune a eu l'idée d'échanger une ardoise de l'ancienne toiture contre un don d'au moins 20 euros de la part des habitants qui le souhaitaient. Ce samedi, un grand rassemblement diocésain est organisé à Charleville-Mézières avec les différents acteurs du diocèse de Reims et des Ardennes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, nous en parlait succinctement mercredi soir lorsqu'on l'interrogeait sur le synode sur l'avenir de l'Église.
Exactement, dans ce rassemblement, nous utiliserons la méthode de la conversation spirituelle qui sera celle employée par la session synodale, parce qu'il s'agit bien de vivre la synodalité au quotidien.
On vous proposera un retour sur cet événement dans notre édition de lundi soir avec Jean-Pierre Benoît, puis certainement que ce sera un des sujets abordés par Mgr Étienne Véteux dans la rubrique Parole d'évêque aux alentours de 18h40 ce soir. On passe de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette. Voilà la démarche des équipes missionnaires qui sillonnent le diocèse de Reims et des Ardennes. Dimanche, dans l'espace missionnaire Ardennes Sud, une nouvelle mission sera lancée à Soleil-Retel et Retel, l'aire la plus urbaine d'un territoire rural, le père Arnaud Toury, responsable de l'espace missionnaire.
Je dirais simplement qu'effectivement, l'intérêt d'une mission plus longue de 8 jours est lié à la taille de l'agglomération retelloise. L'enjeu pour nous, c'est de rencontrer effectivement toutes les personnes qui nous ouvriront leurs portes pour les écouter. On n'est pas là pour vendre quelque chose, mais d'abord pour venir vivre la rencontre. Alors souvent, ça se passe de manière plutôt sympathique. Même les gens qui finalement nous disent qu'ils ne sont pas intéressés nous le disent avec le sourire. Je pense que dans les faits, le Retelois est quand même une mentalité rurale, même dans une petite ville. Donc la mentalité sera sensiblement la même, me semble-t-il. Juste pour préciser quelque chose, c'est que beaucoup de personnes nous disent « Oui, mais on n'est pas les témoins de Jéhovah ». Précisément, on n'est pas dans la même démarche. On est vraiment dans une démarche de visitation. On vient à la rencontre des personnes, on n'est pas là pour les démarcher, mais vraiment répondre éventuellement à leurs attentes, à leurs questions quand il y en a, ou entendre leurs plaintes, leurs douleurs. C'est vraiment une démarche plus de prière et de bienveillance.
Rendez-vous pour la célébration de lancement dimanche donc, mais le démarrage effectif de la mission se fera bien lundi à Soleil-Retel, avant de passer plusieurs jours à Retel dès mardi. Par ailleurs, une mission sur une journée est déjà prévue le 8 novembre au Chêne et à Béron. Le sport, c'est un événement international d'abord avec le dernier match de poule de la Coupe du Monde pour l'équipe de France de rugby opposée à l'Italie. Malgré un parcours sans faute jusqu'ici, une défaite précipiterait les tricolores vers une élimination prématurée. Tout autre résultat enverrait les Bleus en quart de finale. Du sport en local, il y en a ce week-end avec du basketball au programme. Dès ce soir, dernier match de poule de la Leaders Cup Pro B pour le Champagne Basket, déjà qualifié pour le prochain tour. L'Alliance champenoise est opposée à Rouen à 20h au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-en-Champagne. En Ligue féminine, les Flammes Carolo tenteront la passe de 3 face à Lyon dimanche à 15h15 avant d'entamer leur campagne de Coupe d'Europe la semaine prochaine. En football, Ligue 2, 3 ira défier Valenciennes samedi à 19h, tandis qu'en Ligue 1 à 21h, Reims recevra Monaco. Toute l'actualité sportive de votre région sera à suivre sur RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes à l'intérieur du Sportiplex samedi soir de 19h30 à 22h. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Deuxième partie de ce magazine régional ce soir qui va être consacré relativement à Dronay et son église avec un retour sur les travaux en cours suite à la destruction de l'église Notre-Dame de Dronay. C'était le 7 juillet dernier. C'est aux environs de midi que l'église en pan de bois de Dronay dédiée à Notre-Dame est partie en fumée. Il ne reste rien dans les minutes qui suivent l'alerte malgré une grosse mobilisation des pompiers venus de tout le département qui sécurisent les alentours de l'église afin que le feu ne se propage pas aux habitants proches et aux cultures agricoles. Pratiquement 3 mois après, on sent toujours l'émotion dans la voix du premier magistrat, Emmanuel Leroy, qui nous décrit son quotidien autour de l'ancienne église Notre-Dame de Dronay.
Emmanuel Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Dronay, le lieu où l'église a brûlé le 7 juillet 2023. Ça va bientôt faire 3 mois. Où est-ce qu'on en est des démarches administratives ?
Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et que peu de personnes voient parce que ça se fait dans l'ombre et ça se fait au téléphone ou par courriel. Et c'est donc assez prenant. On en est aujourd'hui à la protection du sol. Le déblaiement et le démontage du porche ont été réalisés durant l'été et se sont achevés le 11 août. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec les architectes du patrimoine et la DRAC comment on peut protéger le sol de manière un peu pérenne avant la reconstruction de l'église. Donc on est à une phase où il y a un ou deux architectes qui vont venir donner leur avis, faire un devis pour qu'on puisse statuer sur réellement ce qu'il faut faire et ce qui est la meilleure solution pour protéger ce sol qui a brûlé certes avec l'église mais qui reste quand même dans un état très correct. Qu'est-ce qui a pu être récupéré de l'église ?
Alors, vu la taille du bâtiment, pas grand-chose en fait, mais suffisamment pour qu'on ait à la fois des souvenirs et puis de l'intérêt pour les architectes du patrimoine, les maîtres verriers, etc. Donc il y a quelques morceaux de vitraux qui ont été récupérés. Alors je ne sais pas réellement l'intérêt précis, mais les personnes qui les ont récupérés étaient très contentes de les avoir trouvés quand même. On a récupéré aussi quelques éléments comme des bourdons de cloche, un porte-bougie un peu abîmé mais qu'on pourra sans doute restaurer, la tige qui soutenait le coq de l'église, également quelques restes de statues qui fait qu'en fait on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas en bois d'ailleurs. Les fonds baptismaux qui étaient à restaurer sont également toujours là et donc sont plus que jamais à restaurer. Et puis quelques éléments métalliques, sans compter que le porche, qui n'était pas le porche principal en fait, hein, même si c'était le porche par lequel on rentrait habituellement, lui n'a pas brûlé et donc a été entièrement démonté et stocké aujourd'hui à la Drac à Chalons. Voilà, donc en fait, il y a eu pas mal de choses qui ont été récupérées, et même des poutres en fait, en partie calcinées, mais qui intéressent aussi la Drac et qui sont certainement intéressantes à étudier, si ce n'est éventuellement à remettre dans une éventuelle construction, mais ça c'est dans le futur.
Alors ce futur, il est proche ou il est lointain ?
Ah, ça c'est une bonne question. Il est à la fois proche et relativement lointain. Disons que là, il faut finir la phase de protection du sol pour attaquer donc la phase qui intéresse beaucoup de monde ici, à savoir la phase de la reconstruction de l'église, qui nécessitera certainement beaucoup plus de temps déjà d'études, de préparation et de réflexion entre les différents partenaires, ce que nous on veut au niveau de la commune, ce que ça va coûter aussi, etc. etc. Là aujourd'hui j'imagine pas du tout tout ce qu'il y aura à faire, je vous le dis franchement, c'est très compliqué d'imaginer tout ce qu'il y a à faire, et je pense qu'on en apprendra au fur et à mesure qu'on sera un petit peu les mains dans le cambouis, comme on dit, hein, donc.
Alors les mains dans le cambouis financièrement, qui va payer?
Alors effectivement c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent, hein, puisque en fonction du projet, il y aura certainement un coût plus ou moins important. Et c'est surtout ça qu'il va falloir voir pour qu'on ait un projet à la fois consensuel, qui en fait fasse en quelque sorte un peu l'unanimité. Et puis, un projet qui tienne la route financièrement pour que on puisse aller jusqu'au bout. Alors, qui va payer ? Tous les partenaires habituels, je dirais pas dans ce genre de situation, parce qu'il n'y a pas eu tellement de genre de situation, mais l'État, certainement, puisque le bâtiment a été classé, et donc l'État a toujours dit qu'il nous accompagnerait par rapport à ça, le conseil régional, le conseil départemental, et puis probablement d'autres collectivités. Et puis après, il y a toute la partie dons, mécénat, etc., qui va venir abonder en complément. Alors, on s'était dit aujourd'hui peut-être plus sur l'aménagement intérieur de l'église, sachant que il y a la reconstruction en elle-même, les murs, les poutres, la toiture, etc. Et puis il y a toute la partie intérieure avec l'autel, les chaises, le chemin de croix, les fonts baptismaux, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, voir une statue ou deux, des vitraux, pourquoi pas. Moi, je suis pas dans l'opérationnel par rapport à ça. Donc j'imagine pas encore concrètement tout ce qu'il va y avoir à faire. Je pense qu'il y aura un petit groupe ou un gros groupe de travail, et donc il y aura beaucoup de monde qui pourra donner son avis et qui pourra abonder pour que tout ce qu'on pourra faire soit le plus complet, le plus exhaustif possible.
Emmanuel Leroy, eh bien, on est appelé à se revoir dans un proche et lointain futur.
C'est ça. De toute façon, le travail, c'est un travail un peu en fil rouge, hein, maintenant. Il y a des périodes de coups de bourre, hein, comme on a vécu entre le 7 juillet et le 11 août, la fin du déblaiement. Là, depuis la rentrée, on est sur la phase protection du sol. Et puis après, on aura le fil rouge de la reconstruction. rencontre des partenaires à la fois financiers, techniques et qui vont nous accompagner sur le projet. Et donc, il y aura toujours à dire dans les mois à venir. Moi, je me suis fixé comme objectif peut-être de commencer à avoir un projet à peu près ficelé pour 2025. On verra si on s'y tient, on espère en tout cas.
Eh bien Emmanuel Leroy, merci. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Dronet dans l'espace missionnaire du Pertois.
C'est ça, merci beaucoup.
Des propos recueillis par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Le maire de Dronet, Emmanuel Leroy, prévoit un premier projet de reconstruction de l'église Notre-Dame de Dronet pour 2025. On reparlera de cette église dans quelques instants. Ce sera en fin d'édition de ce magazine régional.
Le 18-19 sur RCF.
Des nouvelles de nos diocèses et plus précisément du diocèse de Reims et des Ardennes avec en alternance une fois tous les 15 jours. Le vendredi, on retrouve Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Entretien au micro de Jean-Pierre Benoît.
Mgr Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde.
On va revenir un peu sur les événements qui se sont déroulés il y a quelques jours, puis on va regarder l'avenir. Alors il y a quelques jours, ça fut pour vous une découverte, cette fête de Sarmie, la Grande Couronne, une célébration quand même où il y avait beaucoup de monde. Quelle est votre impression et votre sentiment ?
C'est une chance d'avoir une sainte remise au moment où j'arrive. Ça me permet d'avoir cette belle expérience. J'étais très très frappé par, en fait, l'engagement, la dévotion que les gens avaient. Bien sûr, la couronne abaissée, puis la couronne enflammée est magnifique. Plus sur le fond, je trouve que c'était un beau moment d'unité pour le diocèse. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il y avait des groupes extrêmement différents, des enfants, des malades, différents scoutismes, le renouveau charismatique, l'église verte, et j'en passe. Et donc, un moment où toute la diversité des réalités dans le diocèse, dans l'église locale, était présente ensemble, en se croisant, ou parfois même ensemble dans le même lieu. La messe inter-scout était très belle de ce côté-là. Les trois mouvements scouts ont préparé ensemble, ont prié ensemble, se sont donné la paix du Christ ensemble.
Et quelques jours avant, vous aviez pu célébrer la messe des malades. Là aussi, c'est un moment important. Et les malades ont un rôle important.
Je pense que c'était un des moments les plus touchants pour moi dans cette semaine. Une très très belle messe des malades et puis aussi des personnes âgées. Ça faisait suite avec la matinée des enfants, la Saint-Remis des enfants, où il y avait 350 ou 400 enfants. Et j'ai trouvé magnifique déjà ce contact des générations. C'est rare dans la société actuelle que les différentes générations se retrouvent et je crois que c'est un trésor que l'Église peut apporter à la société. Vous le disiez, souvent quand on parle des malades, on parle du service que l'on peut rendre aux malades, mais pas du service que les malades peuvent nous rendre et rendre à la société. Or, en Christ, tout être humain a une mission. Et un malade a autant une mission, peut-être même plus que d'autres. Je pense à deux aspects possibles de la mission des malades. La première, c'est que il y a une proximité particulière qu'un malade peut avoir à d'autres malades. On fait cette expérience que quand on a vécu quelque chose de difficile dans sa vie, c'est personnel, mais c'est le lieu où Dieu nous appelle à servir d'autres qui ont cette même difficulté, puisque nous arrivons à la traverser, nous pouvons être proches des autres. Et là, je sais que des malades peuvent vraiment écouter d'autres malades qui sont dans le besoin. Et puis l'autre chose, c'est que nous sommes dans une société avec un grand souci d'efficacité, le temps va très vite, etc. Les malades ne peuvent pas vivre cela, les personnes âgées en EHPAD ou les personnes âgées ne peuvent pas vivre cela, mais elles sont justement un témoin que ce n'est pas dans cette efficacité que le cœur de la vie, mais plutôt dans la gratuité et dans les relations. Une grand-mère peut jusqu'à la fin rester en relation avec ses petits-enfants. Un malade peut nous rappeler que le cœur de la vie, ce n'est pas de produire, le cœur de la vie, c'est d'aimer.
La fête de Sarmie est maintenant une actualité un peu plus, j'allais dire, universelle, avec l'ouverture avant-hier du synode sur la synodalité. Quelques mots, Monseigneur, vous qui connaissez aussi bien Rome, l'organisation de ces synodes.
C'est un moment capital, je pense, dans l'histoire récente de l'Église. Le pape a réuni plus de 350 délégués de différents pays, parmi lesquels plus de 50 sont des personnes qui ne sont pas évêques, mais qui vont avoir le droit de vote, dont un grand nombre de femmes. Synode, ça veut dire marcher ensemble. L'idée, c'est de marcher ensemble, de s'écouter les uns les autres. Là, et c'est un synode sur la synodalité. S'écouter et s'écouter tous. Écouter tous les pays du monde, écouter toutes les cultures du monde, écouter toutes les hommes et les femmes, écouter toutes les formes de vie, les formes de ministère, tout ce qui peut constituer notre Église.
Alors justement, puisqu'on évoque Rome, le synode, j'ai cru savoir que dans quelques jours, je crois que c'est à partir de dimanche, vous allez vous rendre vous-même à Rome. Dans quel contexte, Monseigneur ?
Alors bien sûr, c'est d'abord dans le contexte de ce synode. J'y vais pas pour participer au synode, mais je suis sûr que je serai proche. Et vous savez que sur le synode, on parle beaucoup de certains thèmes très médiatisés. La question éventuellement le pape lui-même a dit « on fait pression actuellement dans son discours d'ouverture », il a dit « on fait pression actuellement sur la question d'ouvrir le sacerdoce pour les femmes ». Je pense que le synode n'est pas d'abord sur des thèmes, mais d'abord sur comment fonctionne l'Église. On veut permettre à l'Église d'être à l'écoute de tous, et c'est la manière d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint. Bien sûr, là aussi, le pape insiste beaucoup sur le fait que le synode est un lieu non pas seulement d'écoute, ce n'est pas un parlement humain, mais c'est se donner les moyens d'écouter celui qui est le vrai, véritable acteur de l'Église, c'est l'Esprit-Saint. Et pour faire ça, on a besoin d'écouter tout le monde, même les plus petits, même ceux qui n'ont pas de voix.
Donc en marge de ce synode à Rome, au moment de ce synode, vous-même vous allez participer pour 4 jours à un colloque. Vous êtes même l'un le modérateur de ce colloque.
Oui, avant d'arriver à Reims, j'étais le directeur d'un centre d'études juives à Rome, le Centre Cardinal Béat pour les études juives, et nous étions dans l'organisation d'un colloque très important. Il s'agit d'un colloque sur le rapport entre l'Église et le peuple juif pendant le pontificat de Pie XII, donc 1939 à 1958. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, période de la montée, de l'apogée des totalitarismes, communisme, fascisme et bien sûr le nazisme. C'est la Deuxième Guerre mondiale avec des destructions massives, des déplacements de population. Et puis c'est la Shoah, la destruction, le meurtre de 6 millions de Juifs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la question se pose de la réaction de l'Église dans cette situation dramatique.
Et les archives ont été récemment ouvertes.
Et voilà. Et donc, vu qu'il y a du débat, vu que on sait que beaucoup de Juifs, par exemple, ont été sauvés par des couvents, par des paroisses, aussi par des actions du Vatican on dénonce, mais aussi que beaucoup de portes sont restées fermées, la question se pose, l'Église a-t-elle su réagir ? Et le pape a voulu, en avance, sur la date prévue, ouvrir les archives de cette période. Et donc, depuis 2020, il y a 16 millions de nouveaux documents qui sont mis à disposition des chercheurs. C'est vraiment un acte de transparence de la part de ce pape qui n'a pas peur de l'histoire. Il dit « Nous ne devons pas avoir peur de l'histoire, nous ne devons pas avoir peur de la vérité. »
Monseigneur Étienne Vetteux, on aura l'occasion d'en reparler de ce colloque. Retour dans le diocèse, vous avez confirmé un certain nombre de jeunes et vous allez en confirmer, je crois, ce week-end encore, à Novi-Chevrière, je crois savoir.
C'est ça. J'ai eu la chance d'aller au Chêne samedi dernier et célébrer mes premières confirmations. Pour un évêque, c'est toujours très touchant de faire cela. Et puis, Novi-Chevrière demain. C'est beau de voir des jeunes qui confirment, c'est-à-dire qui décident de rendre stable leur foi.
Et puis demain, un grand rendez-vous, la rencontre des acteurs pastoraux.
Oui. Et là, tout ça, c'est aussi le contact avec les Ardennes. Et demain, cette rencontre de journée diocésaine pour tous les acteurs pastoraux, c'est notre forme de synodalité ici. C'est le moment où nous pouvons mettre en pratique le fait
de... Il y a une cohérence dans
tout
ça.
C'est ça, de s'écouter tous, d'écouter l'Esprit-Saint ensemble.
Merci, Monseigneur Étienne Vietteux, d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF.
Et merci à vous aussi, Jean-Pierre. On vous retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de RCF à l'intérieur du magazine régional dès lundi 18h10. Et puis le lundi, évidemment, le matin, l'information à 7h et à 8h. Même si lundi matin, je crois que vous serez en repos, Jean-Pierre. Ça sera moi qui prendrai le relais exceptionnellement. Mais promis, vous aurez la place pour passer quelques invités quand même dans la semaine. On fera une matinale spéciale si vous le souhaitez mardi.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on retourne à Dronay pour terminer ce magazine régional. Concert de chant grégorien au profit de l'église Notre-Dame s'est organisé le dimanche 15 octobre à 17h à Vitry-le-François. Depuis le printemps, l'association de sauvegarde de l'église de Dronay a prévu d'organiser un concert de chant grégorien à la suite de la destruction de l'église par le feu dont on parlait tout à l'heure, qui a eu lieu le vendredi 7 juillet dernier. Le concert est tout de même maintenu, mais il aura lieu à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Les précisions de Anne-Marie Vermeulen, présidente de l'association de sauvegarde de l'église de Dronay.
Anne-Marie Vermeulen, bonjour.
Bonjour.
Présidente de l'association de sauvegarde de l'église Notre-Dame de Dronay. Malheureusement, la sauvegarde est aujourd'hui, c'est un dur boulot pour vous.
Oui, c'est l'inattendu. Mais en même temps, bon, il faut prendre la situation à bras-le-corps. Maintenant, il faut regarder devant soi, hein, et puis vivre dans l'espérance. Voilà.
Pour vivre dans l'espérance, ça veut dire que vous continuez de faire travailler les membres de votre association, et notamment prochainement un concert.
Un concert de chant grégorien par le chœur grégorien de Champagne-Ardenne, le dimanche 15 octobre à 17h. Et ce concert était prévu au préalable dans l'église de Dronay depuis le mois d'avril. Et donc il aura lieu à la collégiale Notre-Dame de Vitry-le-François.
Qui sont les membres de ce chœur de chant grégorien ?
Alors ce chœur de chant grégorien a été trouvé par la secrétaire de notre association. Nous étions à la recherche de concerts pour faire vivre notre église. Comme les chants grégoriens nous plaisaient, elle a trouvé sur un site internet à Reims ce chœur grégorien, et donc nous avons contacté les personnes qui ont été tout de suite enthousiasmées par notre projet et qui nous ont répondu favorablement. Donc nous sommes en contact régulier avec eux, et puis donc je pense que ça va se passer de façon très sympathique avec l'aide justement d'un organiste qui va venir jouer quelques accords pour entrecouper les chants.
Et le fait d'avoir transféré le concert, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Ils étaient tout de suite participants. Ils étaient tout à fait d'accord, parce qu'en fait, ils ont été aussi très, très émus par la situation actuelle de notre village. Donc, ils étaient très solidaires de ce projet. Donc, ils ont accepté tout de suite de venir le faire à la collégiale.
Je crois savoir également que pour vous aider financièrement, vous avez créé un compte sur un réseau.
Oui, il y a une cagnotte qui a été créée sur un compte Litchi. Bon, cette cagnotte, elle grimpe tout doucement, régulièrement, voilà. Et donc, cet argent nous servira peut-être à organiser d'autres concerts, hein, de façon à ce qu'on ne nous oublie pas déjà. Et puis aussi pour récolter des fonds qui vont nous servir pour la future église, hein, pour certainement l'aménagement intérieur. Et bon, tout ce qui ne sera pas classé au monument historique, et puis peut-être aussi pour créer un lieu de mémoire de l'ancienne église.
Donc vous avez aussi cet espoir de faire en sorte que dans la nouvelle, on pense à l'ancienne.
Ah oui, tout à fait. C'est très important qu'on pense à l'ancienne église, parce qu'elle contenait vraiment des trésors. Et je pense qu'il faut qu'elle continue à vivre, que l'ancienne continue à vivre dans la nouvelle.
Alors pour revenir au concert du dimanche 15 octobre à 17h à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, ça sera payant ?
Ce sera payant. Alors nous demandons 10 euros pour les adultes. Et le concert sera gratuit pour les moins de 12 ans.
Et donc, on invite donc les personnes qui aiment le grégorien, qui veulent soutenir l'association, qui veulent soutenir l'église Notre-Dame de Dronay détruite, à venir nombreux. Eh bien, merci Anne-Marie.
Merci.
Un entretien réalisé par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignement 06 81 16 29 67. Et c'est sur ce rendez-vous que se referme le magazine régional ce vendredi. On se retrouve la semaine prochaine à 18h10 avec Mélissa Tavares, qui sera toujours avec nous la semaine prochaine, Mélissa.
Eh oui.
Avec d'autres missions, ça sera un plaisir pour nous de vous retrouver. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, l'information nationale sur RCF.